quitter, et je la forcerai bien à rester avec nous. » Mais il lui avait empoigné le bras, il ne la lâchait plus, pris de colère. « Je vous ordonne de vous tenir tranquille, entendez-vous ? Ou vous partirez avec elle ? Pourquoi êtes-vous entrée ? J'étais malade à cause de ce vent, ça ne regarde personne. » Puis, envahi d'un attendrissement, cédant à sa bonté ordinaire, il finit par sourire. « Ma pauvre fille, voilà que vous me fâchez. Laissez-moi donc agir comme je le dois, pour le bonheur de tous. Et pas un mot, vous me feriez beaucoup de peine. » Martine, à son tour, retint de grosses larmes. Il était temps que l'entente se fît, car Clotilde entra presque aussitôt, levée de bonne heure, ayant la hâte de revoir Pascal, espérant sans doute jusqu'au dernier moment qu'il la retiendrait. Elle avait elle-même les paupières lourdes d'insomnie. Elle le regarda tout de suite, fixement, de son air d'interrogation. Mais il était si défait encore qu'elle s'inquiéta. « Non, ce n'est rien, je t'assure. J'aurais même bien dormi sans le mistral. N'est-ce pas, Martine? Je vous le disais. » La servante, d'un signe de tête, lui donna raison. Et Clotilde, elle aussi, se soumettait, ne lui criait pas sa nuit de lutte et de souffrance pendant qu'il agonisait de son côté. Les deux femmes, dociles, ne faisaient plus qu'obéir et l'aider dans son oubli de lui-même. « Attends, » reprit-il en ouvrant son secrétaire, « j'ai là quelque chose pour toi. Tiens, il y a 700 francs dans cette enveloppe. » Et bien qu'elle se récria, qu'elle se défendit, il lui rendit les comptes. Sur les 6 000 francs de bijoux, à peine 200 étaient dépensés, et il en gardait 100 pour aller jusqu'à la fin du mois, avec la stricte économie, l'avarice noire qu'il montrait désormais. Ensuite, il vendrait la souleyade, sans doute, il travaillerait, il saurait bien se tirer d'affaire. Mais il ne voulait pas toucher aux 5 000 francs qui restaient, car ils étaient son bien à elle, et elle les retrouverait dans le tiroir. « Maître, maître, tu me fais beaucoup de chagrin. » Il l'interrompit. « Je le veux, et c'est toi qui me crèverais le cœur. Voyons, il est 7h30, je vais aller ficeler tes malles, puisqu'elles sont fermées. » Lorsque Clotilde et Martine furent seules, en face l'une de l'autre, elles se regardèrent un instant, en silence. Depuis la situation nouvelle, elles avaient bien senti leur antagonisme sourd, le clair triomphe de la jeune maîtresse, l'obscure jalousie de la vieille servante autour du maître adoré. Aujourd'hui, il semblait que ce fût cette dernière qui resta victorieuse. Mais, à cette minute dernière, leur émotion commune les rapprochait. « Martine, il ne faudra pas le laisser se nourrir comme un pauvre. Tu me promets bien qu'il aura du vin et de la viande tous les jours. N'ayez pas peur, mademoiselle. Et tu sais, les 5 000 francs qui dorment là, ils sont à lui. Vous n'allez pas, je pense, mourir de faim à côté. Je veux que tu le gâtes. » « Je vous répète que j'en fais mon affaire, mademoiselle, et que monsieur ne manquera de rien. » Il y eut un nouveau silence. Elle se regardait toujours. « Puis, surveille-le pour qu'il ne travaille pas trop. Je m'en vais très inquiète. Sa santé est moins bonne depuis quelque temps. Soigne-le, n'est-ce pas ?»« Je le soignerai. Soyez tranquille, mademoiselle. » « Enfin, je te le confie. Il ne va plus avoir que toi. Et ce qui me rassure un peu, c'est que tu l'aimes bien. Aime-le de toute ta force. Aime-le pour nous deux. » « Oui, mademoiselle, autant que je pourrai. » Des pleurs leur montaient aux paupières. Et Clotilde dit encore, « Veux-tu m'embrasser, Martine ?»« Oh, mademoiselle, très volontiers. » Elles étaient dans les bras l'une de l'autre lorsque Pascal rentra. Il affecta de ne pas les voir, pour ne pas s'attendrir sans doute. D'une voix trop haute, il parlait des derniers préparatifs du départ, en homme bousculé qui ne veut pas qu'on manque le train. Il avait ficelé les malles, le père Durieux venait de les emporter sur sa voiture, et on les trouverait à la gare. Cependant, il était à peine 8 heures. On avait encore 2 grandes heures devant soi. Ce furent 2 heures mortelles d'angoisse à vide, de douloureux piétinements, avec l'amertume 100 fois remâchée de la rupture. Le déjeuner prit à peine 1 quart d'heure. Puis, il fallut se lever, se rasseoir. Les yeux ne quittaient pas la pendule. Les minutes semblaient éternelles, comme une agonie, au travers de la maison lugubre. « Ah, quel vent !» dit Clotilde à un coup de mistral dont toutes les portes avaient gémi. Pascal s'approcha de la fenêtre, regarda la fuite éperdue des arbres sous la tempête. Depuis ce matin, il grandit encore. Tout à l'heure, il faudra que je m'inquiète de la toiture, car des tuiles sont parties. Déjà, ils n'étaient plus ensemble. Ils n'entendaient plus que ce vent furieux, balayant tout, emportant leur vie. Enfin, à 8h30, Pascal dit simplement « Il est temps, Clotilde. » Elle se leva de la chaise où elle était assise. Par instant, elle oubliait qu'elle partait. Tout d'un coup, l'affreuse certitude lui revint. Une dernière fois, elle le regarda, sans qu'il ouvrît les bras pour la retenir. C'était fini, et elle n'eut plus qu'une face morte, foudroyée. D'abord, ils échangèrent les banales paroles. « Tu m'écriras, n'est-ce pas ?»« Certainement. Et toi, donne-moi de tes nouvelles le plus souvent possible. » Surtout, si tu étais malade, rappelle-moi tout de suite. Je te le promets, mais n'aie pas peur, je suis solide. Puis, au moment de quitter cette maison si chère, Clotilde l'enveloppa toute d'un regard vacillant. Et elle s'abattit sur la poitrine de Pascal, elle le garda entre ses bras, balbutiante. « Je veux t'embrasser ici, je veux te remercier. Maître, c'est toi qui m'as fait ce que je suis. » Comme tu l'as répété souvent, tu as corrigé mon hérédité. Que serais-je devenu là-bas, dans le milieu où a grandi Maxime? Oui, si je vaux quelque chose, je le dois à toi seul, à toi qui m'as transplanté dans cette maison de vérité et de bonté, où tu m'as fait pousser, digne de ta tendresse. Aujourd'hui, après m'avoir prise et comblée de tes biens, tu me renvoies. Que ta volonté soit faite. Tu es mon maître et je t'obéis. Je t'aime quand même.